I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous fait un zapping de bons plans tellement excellent que vous n'aurez plus jamais le temps de vous ennuyer. Bonjour à tous et bienvenue sur Upload épisode 79, je suis Patrick Béja et dans cette émission on vous recommande des trucs cool en 20 minutes. Vous remarquez que je dis des trucs cool et pas trois trucs cool comme d'habitude puisqu'on est toujours dans la session de rentrée 2016 où nous avons quatre trucs cool à vous proposer. Je suis avec Diraen, Kassim et Karine. Comment ça va aujourd'hui?
Ça va bien ma foi.
Oui. Et toi? Et toi Patrick, qu'est-ce que ça va depuis la BlizzCon quand même, c'est la semaine dernière quand même.
Bah oui, j'allais dire on est début novembre, mi-novembre, il commence à faire un peu froid quand même. La BlizzCon, bah c'était forcément très sympa, hein. J'ai rencontré plein de monde, c'était très cool. Et puis voilà, c'était très sympa. Bah écoutez, Karine, oui, on t'a entendu ricaner. Oui, je sais pas pourquoi on est bien le 11 novembre.
Hein? Oui, tout à fait.
Tout à fait, merci, très bien.
D'ailleurs, Patrick nous demandait d'enregistrer un jour férié quand même.
Oui, c'est pas sympa.
Mais non, mais on diffuse le jour où on enregistre, donc c'est ça, le 11 novembre. Très bien. Bon, écoutez, ça fonctionne, on comprend tout, tout marche bien. Je vous propose de nous lancer dans nos recommandations avec, pour ma part, une série dont vous avez sans doute entendu parler, mais que vous n'avez peut-être pas regardé. C'est la série de l'été pour moi. Elle s'appelle Stranger Things. Elle est disponible sur Netflix. Et c'est une série qui m'a... Comment dire ? Dire enchanté, et le mot est un peu faible en fait. Elle m'a envoûté. Voilà, je crois que c'est le terme qui convient le mieux. C'est une série qui m'a complètement envoûté. C'est une série de science-fiction qui réunit en fait tous les poncifs, l'imaginaire des années 80 avec des films, tous les Spielberg, principalement Spielberg en fait, c'est presque une lettre d'amour à Spielberg, mais c'est tout ce qui est E.T., les Goonies, enfin vraiment tous ces films qui ont marqué notre enfance dans les années 80, je dis notre et j'inclus là-dedans mes co-animateurs, mais peut-être que je suis un petit peu présomptueux d'imaginer qu'ils sont de ma génération.
Non mais tu sais, on est vieux. Oui, enfin, à part d'accord. Peut-être non, mais...
Ouais, mais j'allais dire que ça marche aussi. Bah, j'en parlerai après, en fait.
D'accord, ok, bon. Et en fait, c'est vraiment une lettre d'amour au film des années 80. On a l'impression qu'ils ont commencé à écrire la série en se disant qu'est-ce qu'on peut faire pour plaire aux gens qui ont grandi dans les années 80. Et en même temps, c'est fait avec tellement d'authenticité que tu sens que les auteurs, les frères... comment ils s'appellent déjà? Les frères Duffer, c'est ça. Ont en fait un vrai amour authentique pour cette esthétique, et en même temps, c'est une validation des geeks que nous sommes aujourd'hui adultes et qui avons pris le pouvoir, comme on le dit souvent, mais tu sens les enfants. Bon, je vais expliquer quand même de quoi il s'agit. C'est des enfants dans une petite ville des États-Unis qui font face à des phénomènes étranges. Et je vais pas aller plus loin parce que c'est pas la peine. C'est juste un groupe d'enfants qui doit gérer, avec des adultes aussi. Il y a des adultes qui gèrent de leur côté des phénomènes étranges qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Et ce que je voulais dire, c'est que ces enfants, ils sont les geeks que nous étions à l'époque. Ils jouent à Donjons et Dragons.
Mais ils tellement.
Complètement, hein. T'es d'accord, Diraen?
Mais tellement. Ah bah oui. Et... ce qui fait qu'on les aime encore plus.
Mais voilà, c'est ça. Et ils
sont... fait, juste le premier épisode commence sur une partie de Donjons et Dragons.
C'est ça.
Et moi, à partir de ce moment-là, c'est bon, j'étais accrochée.
Et il y a des gens qui ont... Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé la série. Je pense que la plupart des gens qui ont écouté, qui nous écoutent aujourd'hui, ont vu la série. Si c'est pas le cas, je vous la... Enfin, je dis que c'est une série pour fans, parce que c'est un style particulier quand même. C'est à mi-chemin entre le on va dire le fantastique et l'horreur gentille. C'est pas non plus hyper difficile à regarder si vous aimez pas les films d'horreur, mais voilà, c'est plus thriller que horreur. Mais cette affection qu'on a pour les personnages et pour le style est impossible à séparer de la qualité de la série.
Je t'interromps deux minutes. Moi, que tu parlais de lettre d'amour à Spielberg, etc. Moi, c'est le truc qui m'avait coupé toute envie de regarder la série. Parce que la dernière lettre d'amour à Spielberg dont on nous avait rabâché les oreilles, c'était Super 8. Et moi, j'ai détesté Super 8, que je trouvais justement beaucoup trop en mode clin d'œil, hé, hey, regarde, est-ce que tu as vu cette référence clin d'œil, clin d'œil. Et Stranger Things est beaucoup plus intelligent que ça, en fait. Il est beaucoup plus subtil. Et si, comme moi, vous n'avez pas aimé Super 8, regardez Stranger Things, n'ayez pas peur.
Mais vous pouvez avoir aimé les deux.
Ouais, moi j'ai bien aimé Super 8 et j'ai bien aimé Stranger Things. Mais
je pense que je suis moi j'ai vu les Goonies et Explorer au cinéma parce que voilà, je suis vieille.
Comme
donc,
nous.
Stranger Things, c'est typiquement le truc qui rend nostalgique, quoi. C'est comme si on me remettait Candy aujourd'hui à la télévision.
Ouais, c'est un peu ça.
Voilà. Ou Alba...
En ou mieux.
Et en même temps, c'est tellement... c'est difficile à exprimer en mots, mais c'est tellement chaleureux, cette série. Moi, je l'ai vue dans un... Le contexte, c'est que j'étais à la campagne et il faisait gris dehors et du coup, je me suis mis dans une... C'était l'été, mais c'était en Finlande, hein, donc il faisait un peu froid. Et je me suis mis dans ma couverture et j'ai regardé ça. J'en ai regardé un pour voir parce que des gens en parlaient et je me les suis enchaînés presque sans interruption. Et c'était un vrai moment de plaisir. Le genre de série où quand elle est terminée, t'es triste parce que tu seras plus avec eux, quoi. Et j'attends la saison 2 avec une impatience. Et même à la limite, même si la saison 2 est pas bien, c'est pas grave parce qu'il y aura quand même la saison 1 qui reste. Et pour moi, c'est, on avait parlé, je me souviens d'ailleurs avec Kassim de Sense8 l'année dernière. Mm-hmm. Et c'était une série qui m'avait vraiment marqué, Sense8. Et Stranger Things, c'est un petit peu dans le même esprit. Alors, c'est pas du tout le même type de série, hein. C'est très, très, très différent. Mais c'est autant, il y a une identité aussi forte que pour Sense8 et j'y ai un attachement aussi grand, je dirais. Donc voilà, moi, vous l'aurez compris, hein, je suis tombé complètement amoureux fou de cette série et j'ai presque envie de la revoir. Je suis sûr que je vais la revoir à un moment parce que c'était un moment de pur bonheur pour moi. Donc Stranger Things et voilà quoi.
Deux secondes. Par rapport à ce que tu disais, c'est même presque dommage en fait. Enfin moi j'ai presque été déçu quand ils ont annoncé une saison 2. Alors j'étais content parce que j'ai tellement adoré la série que je serais content. J'étais presque déçu parce que c'était tellement une bonne surprise et tellement j'ai envie que ça reste une bonne surprise et que ça reste la saison 1 en fait.
Ouais.
Et
bah,
été parfait pour moi, je trouve que. Oh.
Peut-être que vous allez être contents tous les deux, parce qu'a priori, de ce que j'ai compris, la saison 2 ne reprendra pas tous les protagonistes de la saison 1.
Peut-être qu'ils vont essayer de faire quelque chose de complètement différent. Ouais.
Ce qui serait dommage, c'est de perdre les enfants quand même.
Apparemment, on ne va pas tous les garder. Hein.
Oui, d'accord. Peut-être, ouais. Bon, je ne sais pas, mais en même temps, je leur fais confiance du coup. Ils ont... Mais oui. Bon, Kassim, vas-y, finis.
Non, mais juste pour dire que, moi je suis plus jeune, donc j'ai pas forcément vécu pleinement les films des années 80. Cela dit, un de mes films préférés reste Retour vers le futur, et donc, ça marche quand même. Et je compléterai juste ce que t'as dit en disant que c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'hommages, effectivement, c'est clairement un hommage aux années 80, hein. Ça va même jusqu'à dans la police d'écriture, la façon de montrer le casting, ouais. La façon de filmer et tout, un peu lente par moments. Qui rappelle, voilà. Puis c'est une société, ça se passe dans les années 80, tu l'as peut-être pas dit, et du coup ça se. C'est aussi un monde sans internet et sans téléphone portable. C'est très marrant à voir en 2016. Et donc, mais ça tombe pas forcément dans la facilité. C'est pas parce que c'est un hommage que ça tombe forcément dans la facilité. Je pense que c'est un peu ce que Diren voulait dire. Et il y a quand même beaucoup d'inspiration aussi. Enfin, on sent quand même qu'il y a eu 30 ans maintenant qui se sont passés quand même depuis les années 80. Et je trouve quand même qu'il y a aussi de l'inspiration de peut-être de Silent Hill ou de Lost aussi dans la façon peut-être de décrire un mystère. Et voilà, il y a tout ça qui est passé par là, et c'est pas que un hommage, on va reprendre les années 80, on va refaire un truc en 2016.
Ouais.
Je pense que c'est aussi ça qui fonctionne, quoi.
Non, mais t'as raison de le signaler, parce que j'ai tellement mis l'accent sur les années 80, en fait. Moi, c'est pas comme ça que je l'ai approché, que je l'ai regardé au début. Et c'est vrai que c'est la toile de fond, mais immense qui est derrière le truc. Mais il n'empêche, c'est pas le truc principal de la série, en fait. C'est juste que c'est une bonne série, et même une excellente série. Alors, il y a des gens qui disent première moitié trop lente, deuxième moitié trop d'action. Moi, je dirais que les deux moitiés m'ont énormément plu, mais simplement parce que c'est une excellente série tout court. C'est pas parce que c'est une série des années 80 que c'est une bonne série, c'est que c'est une bonne série qui, en plus de ça, fait un hommage aux années 80. Donc, bon, voilà.
Et qu'on soit enfant ou adulte, on se retrouve soit dans les enfants, soit dans les adultes.
Dans les deux.
Moi, c'est pas, enfin, pour les enfants, pas à n'importe quel âge non plus, hein, puisque les derniers épisodes, sauf vrai. Si vous avez envie de vous relever la nuit pour calmer votre gamin qui fait des cauchemars, non.
Ouais, peut-être pas à tous les âges, c'est vrai. Ouais.
Ouais.
Ça reste quand même une série d'horreur gentille, mais d'horreur quand même.
Ouais.
Bon, si tu compares à Explorer ou Goonies, il faut avoir cet âge-là. Il faut avoir 13-14 ans.
Ouais, voilà. Peut-être, ouais, c'est ça. Peut-être même, ouais, peut-être 12 ans, ça va encore.
Ouais, je pense que 11-12 ans, ça passe.
Ok, bah écoutez, on avance. Diren, de quoi nous parles-tu ?
Mon Dieu, de quoi est-ce que je vais vous parler ?
De Android.
Oui, merci. Je vais vous parler d'une série. une collection de BD qui est publiée chez Soleil, qui s'appelle Android. Donc c'est une série concept qui est composée de 4 tomes et qui traite du sujet des androïdes de façon différente. Donc pour ça, ils ont fait appel à 4 équipes différentes de scénaristes, encreurs et dessinateurs. Et donc là, il y a 3 tomes qui sont sortis. Le premier qui s'appelle Résurrection, le deuxième qui s'appelle Heureux comme Ulysse, et le troisième qui s'appelle Invasion et que je n'ai pas encore lu. Et on attend le quatrième au mois de décembre. Rapidement, je vais vous pitcher un peu les deux. Résurrection, ça se passe en 2500 et des bananes. Les humains sont stériles. Les humains sont tous devenus stériles. Mais coup de bol, ils sont immortels. Donc, c'est pas très grave. Et on va suivre les aventures de Liz Anderson, qui est en binôme avec un robot. Et flic de choc, gros caractère, qui va enquêter sur un meurtre qui va, d'indices en découverte, la mener vers une espèce d'énorme conspiration. Et donc c'est un tome de BD, c'est très très sympa, le plot twist à la fin est un vrai plot twist, pas ultra original mais très bien amené, le dessin est vraiment très 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 chouette.
C'est donc, un tome, c'est BD classique, une quarantaine, cinquantaine de pages, c'est ça ?
Oui. Bon,
c'est une pas quarantaine un gros truc, oui.
D'accord. Non, c'est une quarantaine de pages, je crois même que c'est 38 pages les BD belges, d'accord, en général.
Mais elle est française ou elle est française ou flamande ?
Alors,
bonne question.
Je crois qu'elle est française. Non, mais si. Enfin, il me semble que.
Non, mais c'est pour savoir si elle est si elle est traduite ou. Tu vois ce que je veux dire ?
Non, c'est une BD française.
D'accord. Okay.
Ah, d'accord. Tu veux dire BD belge, enfin BD franco-belge, quoi. Mais c'est
oui,
une
oui,
BD
c'est
française.
Ça. D'accord. Dis, oui. Quand je dis BD belge, c'est pour différencier des comics, en fait.
Oui, d'accord.
Voilà. Et donc le deuxième tome, c'est Heureux qui comme Ulysse, qui raconte l'aventure de AC7+, qui est un androïde qui a été mis sur un sur l'ISS Oxygène, qui est un espèce d'énorme bateau, énorme vaisseau spatial croisière, dont le but est de transporter l'humanité à des milliers et des milliers de kilomètres de la Terre. Et donc, sur ce bateau croisière, ils ont intégré des enfants parce que longueur du voyage oblige, si on veut qu'il y ait un humain survivant à la fin, il faut prendre des enfants. Et puis, en plus, ils se sont rendus compte que avoir des enfants sur un vaisseau spatial, c'est bon pour le moral et ça fait diminuer les tensions. Donc, il y a cette espèce de robot nounou qui s'occupe des enfants. Et puis, au fur et à mesure du voyage, les gens se rapprochent et font d'autres enfants. Et le tout premier né sur l'ISS Oxygène s'appelle Ulysse. Et juste après la naissance d'Ulysse, il y a un énorme accident et l'ISS Oxygène ne peut quasiment plus se déplacer. La seule solution, c'est de faire retour vers la Terre. Sauf que, vu que les moteurs sont endommagés, il leur faudra 1000 ans pour retourner sur Terre. Et donc, l'équipage meurt au fur et à mesure. Assez 7+, mais Ulysse en stase.
Bon, raconte pas tout.
Mais c'est
tout,
juste le début. C'est juste le début.
Ah, c'est que le début, d'accord. J'ai l'impression que t'as fait... D'accord.
Non. Et son ultime but, en fait, c'est de ramener cet enfant né dans l'espace sur Terre qu'il a jamais connu. D'accord. Et quand il va arriver sur Terre, la Terre n'est plus exactement celle qu'il a quittée.
Ouh. Voilà. Enfin, qu'il n'a pas quittée, qu'il n'a pas connue. Enfin,
celle que Assez 7+, a quittée.
Ah, d'accord, ok. D'accord.
Voilà. Et, okay. Et c'est très, très chouette. Et du coup, alors, le dessin est beaucoup plus abouti. Enfin, beaucoup. Le dessin est vraiment d'une qualité exceptionnelle sur Résurrection. Il est beaucoup plus inspiré comics-manga avec des traits plus simples sur Heureux qui comme Ulysse. Et par contre, je trouve que le scénario de Heureux qui comme Ulysse est juste... juste de ce que je vous ai pitché, rendu à la moitié de la BD, j'étais déjà en mode « c'est génial ».
D'accord.
Voilà, donc c'est une jolie série chez Soleil, en espérant que les tomes 3 et 4 soient de la même qualité. Si vous êtes fan de SF, de robots et d'anticipation, c'est quelque chose sur lequel il faudrait jeter un œil.
Très bien.
En fait, tes deux recommandations comics sont très post-apocalyptiques. Quand on y réfléchit.
Oui, il y a deux épisodes que je vous avais. Non, c'était trois épisodes, non?
Il y a deux épisodes, tu parlais de Y le dernier.
Y. Ouais.
C'est vrai que moi j'aime bien quand c'est l'apocalypse.
Réflexion psychologique à explorer plus avant avec ton psy favori d'Irène. Vous avez le sujet de conversation de votre prochaine session, c'est très bien. Donc ça s'appelle Android, c'est une BD et c'est plutôt pour les fans de ce style de BD. Kassim, de quoi nous parles-tu aujourd'hui?
Oui, je vais vous parler cette fois d'un jeu vidéo, puisque je suis aussi un gros gamer, un petit peu trop d'ailleurs peut-être, et je vais vous parler de Guacamelee, qui est alors c'est mon jeu de l'été 2015, mais bon, il est tellement bien, enfin je le recommande tellement que je ne pouvais pas passer dans Positron sans le recommander. Alors c'est un jeu vidéo, c'est un jeu indépendant de mémoire, qui se trouve sur PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 et Xbox One. Pour une quinzaine d'euros.
Et PlayStation Vita, si tu veux tous les
citer. Et PlayStation Vita, oui, tout à fait, oui. En plus, j'y avais pensé, mais oui. Et PlayStation Vita, on le trouve pour 10-15 euros, je crois. Et c'est un... Donc, du coup, tu connais, en fait?
Oui, tout à fait.
Ok, d'accord. Donc, c'est un jeu de type beat'em all en 2D, donc où on incarne un... Pardon?
De quoi donc?
Oui, justement, je vais expliquer. C'est un jeu vidéo où on incarne un luchadoré, donc un catcheur mexicain, qui va, en fait, dont la femme là, se fait enlever au début du jeu, tel Peach dans Mario. Et il va devoir, en fait, traverser plusieurs environnements. Bon, c'est pas forcément le scénario qui est très important. Il va traverser plusieurs environnements pour aller libérer sa bella copine.
Donc, c'est un jeu de plateforme.
Ouais, c'est un jeu de plateforme type...
Ouais, c'est un jeu de plateforme, ouais.
Metroidvania, pour les connaisseurs, même ouais, encore exactement. Plus que jeu de plateforme. Mais ce que tu dis sur le luchador et le truc, tu dis l'environnement est pas si important, mais...
Si, l'environnement, sympa, si, le scénario. Le scénario, on s'en fout un peu. Mais l'environnement, si, c'est partie intégrante du jeu. Alors d'abord, donc sur le gameplay, ouais, c'est un mix de plateforme et de beat'em all, donc on va devoir sauter... Ça devient très 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 plateforme, surtout vers la fin du jeu où on va vraiment falloir millimétrer des sauts, etc. Et c'est aussi un jeu de beat'em all parce qu'il y a énormément de monstres qu'il va falloir combattre et faire des combos, etc. pour réussir à nettoyer des arènes. Et en fait, Patrick parlait de Metroidvania parce que à tout moment, en fait, on peut retraverser et on va même devoir retraverser le monde de part en part selon les compétences qu'on acquiert au fur et à mesure du jeu pour pouvoir, si on veut vraiment, tout explorer à 100%. Et oui, et donc Patrick parlait de l'environnement parce que donc ce setting de Lucha Doré au Mexique, etc., du coup, permet aux créatifs, à la direction artistique, d'avoir vraiment une patte très spéciale. C'est très, alors le dessin, ça fait très dessin animé, très BD, en fait, avec des personnages, enfin, la forme des personnages est vraiment, enfin, grossièrement, c'est pas du tout réaliste, c'est vraiment très BD. Il y a d'ailleurs c'est pas doublé, les personnages ne parlent qu'en bulle, en fait. Et tout l'environnement, bref, respire le Mexique, respire l'Amérique latine,
très coloré. Ouais. C'est...
Et c'est aussi dans la bande son que j'adore. C'est aussi une de mes bandes son préférées de jeux vidéo. Chaque donjon a sa propre piste et il y a vraiment pareil, c'est de la musique très Amérique latine et très 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 colorée aussi, en fait, que j'ai adoré. Donc du coup je le recommande surtout pour les fans, parce que c'est quand même un jeu qui va demander quand même des compétences. Malheureusement, il est pas forcément, c'est ce qui me peine le plus, en fait, finalement, qu'il est pas forcément accessible à tout le monde, quoi. Faut quand même bien être synchronisé pour faire les bons combos qu'il faut, etc., pour sauter, pour aller pour explorer l'environnement et tout. Donc faut quand même avoir une maîtrise du jeu vidéo, malheureusement, mais l'ambiance, le gameplay, la musique sont vraiment très bons. C'est aussi un des rares jeux de nos jours à proposer un mode coop local qui va permettre de faire toute l'aventure jusqu'à 4. Sur les vieilles versions, en fait, c'était jusqu'à 2, et sur les nouvelles versions, jusqu'à 4. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que je conseille surtout la version PlayStation 4, PC et Xbox One, qui s'appelle Guacamelee Super Turbo Championship Edition.
Tes souhaits ?
Ouais, qui est aussi une... je vais en parler après. Qui est donc une édition qui propose tous les contenus téléchargeables qui avaient été ajoutés au jeu, plus des nouveaux donjons, des nouveaux monstres, etc. Donc c'est l'édition la plus complète, en fait, et ça tombe bien, c'est sur les consoles les plus récentes où le jeu est encore plus beau que sur les premières générations. Et oui, en plus, le jeu, donc comme le titre de l'édition spéciale, le jeu a énormément de références à tous les jeux, à la culture jeux vidéo et à la culture internet aussi, puisqu'il y a énormément de références aux mêmes. Il y a des références à Minecraft, il y a des références à Mario, des références à Sonic, à Donkey Kong. Il y a les mêmes d'internet aussi. Il y a le Business Cat. Des références aux mêmes sur internet.
Donc il est drôle en plus d'être bien.
Oui, en plus d'être bien, il est drôle, quoi. Je sais pas. Donc si tu avais joué, Patrick, du coup.
J'y avais joué un petit peu. J'ai pas énormément accroché, je t'avoue. D'accord. Mais j'ai apprécié l'esthétique qui était effectivement très particulière, cet univers luchador Mexique qui était très spécial et le stylisé, très stylisé. Mais voilà, je suis pas allé beaucoup plus loin. J'y ai joué, je crois. Je l'ai commencé deux fois et puis je l'ai pas fini. Donc.
Je pense vraiment que c'est la composante coop qui a vraiment qui m'a fait apprécier vraiment le jeu, quoi, parce que c'est pas facile de trouver des jeux à faire en coop en local à deux.
C'est vrai.
où tu puisses faire la campagne entière, quoi.
Donc voilà, ça s'appelle Guacamelee et c'est un jeu vidéo plutôt pour les fans. Karine, pour la dernière recommandation de cet épisode.
Alors moi, ça va être au choix, soit un podcast ou une émission en direct. C'est l'émission ciné de BBC Radio 5 qui est disponible en France. Si vous avez un VPN, vous pouvez même les regarder en vidéo puisqu'ils ont un live stream. Vous pouvez les écouter sur le site de la BBC sans la vidéo, parce que parfois c'est pas trop nécessaire de les regarder, écouter les infos. Moi, je préfère le podcast parce qu'ils ont une partie avant et après l'émission qui est rajoutée sur le courrier des lecteurs. Il s'appelle Kermode et Mayo. Kermode étant le critique et Mayo étant le journaliste. Ils sont passionnés par le cinéma, mais au bon sens du terme, ils aiment tout. Ils aiment, en fait, ils aiment tout. Ils n'ont pas de limite. Ils aiment les dessins animés, ils aiment les films qui sont vraiment des gros nanars. Ils n'ont pas ce côté élitiste qu'on peut trouver en France chez les critiques de cinéma. Et ça change énormément de choses sur le fait d'apprécier le cinéma, en fait. Et en fait, ils sont très complémentaires et ils sont aussi très grumpy. Donc, ça fait 10 ans qu'ils travaillent ensemble. Il y a des silences qui se comprennent facilement. Ils font des pauses. Quand il y en a un qui dit quelque chose qui va trop loin, l'autre répond pas pendant 30 secondes. Et ça, c'est génial. Et c'est à la radio, hein. C'est pour dire à quel point on n'imaginerait même pas ça en France, à la radio ou à la télévision, un silence aussi long par quelqu'un qui anime une émission. Et donc, ils font un peu de tout. Donc, ils font le courrier des lecteurs. Le courrier des lecteurs, il vient des auditeurs, pardon, du monde entier, parce qu'il y a beaucoup. C'est une émission qui est écoutée par le monde entier. Donc ils reçoivent des courriers, des emails d'Australie, des États-Unis, où ils parlent de gens qui parlent de films qu'ils ont vus et qui sont déjà sortis en Angleterre. Ensuite, ils font le top 10 anglais, évidemment, puisqu'ils ne vont pas faire le top 10 international, c'est pas possible, avec les avis de l'un et de l'autre quand ils ont tous les deux vu les films. Sinon, il y en a un qui parle pas, évidemment, et ils passent. Et ensuite, ils font les interviews de gens qui, pour les films qui sortent dans la semaine. Donc, ça peut être un acteur, un réalisateur, un scénariste. L'émission commence toujours par un bonjour à Jason Isaacs, qui est un de leurs amis proches, l'acteur, que certains connaissent pour le rôle de Lucius Malfoy dans Harry Potter. Et qui leur rend bien et qui vient de temps en temps présenter l'émission à la place d'eux quand ils sont pas là. Non, mais sérieusement, il y a.
Ouais, c'est génial, je trouve c'est génial.
Oui, il y a David Morrissey aussi qui fait la même chose. Donc c'est fantastique d'avoir des acteurs qui viennent et qui les remplacent et qui interviewent d'autres acteurs ou d'autres réalisateurs pour faire la promo de leurs films. Et donc ils parlent de films, ils font des critiques de films. C'est Kermode le critique, donc c'est lui en principal qui fait les critiques. Et ensuite Mayo donne son avis de temps en temps, pas toujours. Mayo étant celui qui fait toujours les interviews des stars qui viennent. Pas souvent dans le plateau, parce qu'ils font pareil qu'en France, c'est-à-dire ils font des press junkets, donc ils vont à l'hôtel et ils suivent le chemin traditionnel des critiques. Et à la fin, c'est la recommandation du film qui passe à la télé et la recommandation DVD de DVD qui sort dans la semaine. Et donc ça peut durer entre 1 heure et 2 heures. Et je conseille très très fortement le podcast. Et ça, c'est toujours en anglais.
D'accord, très bien. Donc ça s'appelle Kermode and Mayo. Ça vient de la BBC, oui. Hein, en
oui,
podcast.
Oui, ça s'appelle. Ouais, c'est BBC Radio 5. Donc ici, voilà. Allô.
Oui, oui.
Pardon. C'est BBC Radio 5 et c'est tous les vendredis à 14h heure anglaise, donc 15h heure française. Et le podcast est disponible vers 18h environ.
D'accord. Voilà. Et le podcast donc s'appelle Kermode and Mayo ou il s'appelle BBC Radio 5 Cinéma? Parce que je pense que les auditeurs, s'ils sont intéressés, ils vont plutôt aller vers le podcast.
Je vais te dire exactement ce que c'est. C'est Kermode and Mayo. Donc K-E-R-M-O-D and Mayo, M-A-Y-O, comme la mayo en français.
D'accord. Ok, très ouais. Bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Karine. On précise effectivement, bon, vous l'aurez compris, hein, mais comme tu l'as dit, que c'est en anglais, donc il faut parler anglais pour l'écouter.
Faut comprendre en tout cas.
Oui, merci à vous tous et comme toujours, hein, on arrive à la fin de l'émission. Donc, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet? Et puis, on commence dans l'ordre d'arrivée, c'est-à-dire que c'est Diraen qui commence.
Donc moi, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux à Diraen et sur le podcast que j'anime avec Force Rose qui s'appelle ABCD Podcast, où on traite de la parentalité de ces gens étranges que sont les geeks.
J'ai cru que t'allais dire de ces gens étranges que sont les enfants. Ça aurait marché aussi.
Oui, ça marche aussi. Bah, justement, quand tu mets ces deux gens étranges que sont les geeks et les enfants en même temps, on essaye de voir ce que ça donne et comment est-ce qu'on s'en débrouille.
Très bien. Cassim, où te retrouve-t-on?
Alors, on peut m'en trouver sur Twitter, @notcassim, N-O-T-C-A-2-S-I-M. Et sinon, là où je gagne de l'argent, c'est sur frandroid.com, où je parle de l'actualité d'Android et puis de la mobilité en général.
Très bien, Karine.
Alors, moi, on me retrouve sur a-suv.org, où on a deux sites, Anusérie et Pernusa. Moi, je suis à la tête de Anusérie, l'annuaire des séries.
Très bien, l'annuaire des séries, annuaire série, oui. Anusérie. Voilà, c'est simple. Je ne comprends pas d'où vient la confusion. Merci à vous tous. Pour ma part, c'est NotPatrick sur Twitter et sur Facebook. Et vous retrouvez aussi cette émission sur frenchspin.fr. Vous retrouverez d'autres émissions que je vous laisserai aller découvrir par vous-même. Merci à tous et on se retrouve dans 15 jours.
Salut.
Salut.
Ciao.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.